Merci Seigneur. Je vais vous demander de regarder dans Proverbes chapitre 4 et aussi dans Exode 23 au verset 25. Nous sommes en train de parler de la guérison divine. La première chose quand il s'agit de nos vies, la première chose à savoir, c'est qu'est-ce que Dieu en dit. Comme je dis toujours, la prière, ce n'est pas obliger Dieu à faire ce que nous voulons. C'est nous mettre en accord avec Dieu pour qu'il fasse ce qu'il veut faire. Il faut quelqu'un sur la terre pour lui demander d'intervenir. Alléluia. Et comment est-ce que nous savons ce qui convient de lui demander? Nous regardons dans sa parole. En réalité, Dieu est bien disposé à notre égard. Beaucoup de personnes pensent qu'elles sont obligées de convaincre Dieu de les aider. Dieu est comme ce vieillard au ciel qui est un peu récalcitrant et peut-être même un peu sénile et qui s'occupe de ses affaires et il faut le secouer pour qu'il voie notre détresse. Est-ce que vous savez que Dieu a eu compassion de nous lorsque nous savions même pas que nous avions besoin de compassion? Alléluia. Et que Dieu est bien disposé. Et donc, quand nous parlons de n'importe quel sujet qui concerne nos vies, la première chose, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu en dit. Et c'est lorsque nous savons ce qu'est la volonté de Dieu que nous savons comment prier. Et beaucoup de fois, lorsque nous prions, nous n'avons pas la foi parce que nous ne sommes pas convaincus que nous sommes en train de demander quelque chose avec lequel Dieu est d'accord. Donc, nous utilisons toutes sortes de stratagèmes, toutes sortes de moyens, parfois même le chantage. Et nous lui disons, Seigneur, si tu fais pas ça, tu vas voir, je ne vais plus aller à l'église si tu ne fais pas ça. Et nous utilisons toutes sortes de moyens, parfois assez enfantins, pour contraindre Dieu et exercer un peu de pression pour qu'il puisse faire ce que nous voulons qu'il fasse. Or, ce n'est absolument pas nécessaire. La parole de Dieu dit, je connais les pensées que j'ai à votre égard. Et quelles sont les pensées que Dieu a à notre égard? Les projets de bonheur et non de malheur. C'est ça qui est extraordinaire. Une des premières choses que nous devons apprendre lorsque nous devenons enfants de Dieu, apprendre la bonté de Dieu. Nous avons un cours sur Dieu dans le cours Racine où nous parlons des attributs de Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous avons une image de Dieu qui correspond un petit peu à notre expérience, les choses que nous avons glanées ici et là, ce qu'un tel nous a dit, et notre frère rétrograde, ce qu'il nous a dit, et le voisin un peu alcoolique, ce qu'il nous a dit, et chacun sa philosophie sur Dieu. Et souvent, lorsque nous venons à Dieu, c'est toujours cette image que nous avons de lui. C'est important de connaître les attributs de Dieu, de savoir d'abord que Dieu est bon, et Dieu a compassion. Donc, dans le thème de la guérison divine, c'est exactement la même chose que dans les autres thèmes que nous étudions. Qu'est-ce que Dieu veut? En réalité, si Dieu ne veut pas que nous soyons en bonne santé, ça ne sert à rien de prier pour qu'il nous guérisse. Parce qu'il ne le ferait pas. Mais si nous découvrons dans sa parole que Dieu veut que ses enfants soient en bonne santé, que ce n'est pas le désir de Dieu que les gens soient affligés, soient attristés, soient dans la maladie et dans la détresse, alors nous avons plus d'assurance lorsque nous venons lui demander. Mais ce que nous voulons, c'est avoir une conviction réelle et profonde. Non pas simplement une connaissance superficielle de 2 ou 3 versets, qu'ensuite nous utilisons comme moyen de chantage à Dieu. Tu vois, si tu fais pas ça, c'est toi qui as dit. Non, c'est une conviction réelle et profonde. Lorsque nous allons parler des différents moyens par lesquels Dieu guérit, comment nous recevons la guérison, c'est un des aspects que nous allons évoquer. C'est cette foi qui naît en nous au fur et à mesure que nous sommes convaincus de la volonté de Dieu. Donc, nous continuons par rapport à là, nous avons commencé la semaine dernière pour voir qu'est-ce que Dieu veut, quel est le désir de Dieu. Nous voyons déjà qu'à la création, il n'y avait pas de maladie. L'homme n'était pas malade. Ce qui nous donne déjà une image de la pensée de Dieu concernant l'homme. Nous avons vu dans Exode chapitre 15. Et aujourd'hui, nous avons chanté ce qu'on appelle les noms rédempteurs de Dieu, les noms des alliances, Jéhovah Nissi, Jéhovah Sebaoth. Ce sont les noms différents de Dieu dans l'Ancien Testament qui témoignent de sa nature et de la manière dont il traite avec ses enfants. Et un de ces noms, c'est Jéhovah Rophé, l'Éternel qui guérit. Dans Exode chapitre 15, c'est la promesse que Dieu fait au peuple d'Israël lorsqu'il les a fait sortir d'Égypte. Et après la mer Rouge, une des premières choses qu'il leur a dit, c'est qu'il était l'Éternel qui guérit. C'est pour cela que nous déclarons qu'il est Jéhovah Rophé. Il est l'Éternel qui guérit. Et nous continuons à voir comment Dieu agit. Est-ce que vous êtes déjà dans Proverbes chapitre 4? Nous allons lire Proverbes chapitre 4, du verset 20 au verset 22. Il nous a dit ceci: mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Encore une fois, nous voyons que à chaque fois que Dieu parle à ses enfants, ceux qui ont une alliance avec lui, et quand il leur parle de santé, il leur parle de bonne santé. Quand il exprime son désir, c'est toujours la santé et la guérison et la restauration. Il déclare également dans Exode chapitre 23, que vous avez déjà regardé, n'est-ce pas, au verset 25, du verset 25 au verset 26. Il dit ceci, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Nous avons déjà vu, par exemple, que lorsque Dieu a sorti le peuple d'Israël d'Égypte, il nous a dit qu'il n'y avait aucun infirme parmi eux. Ce que nous sommes en train de voir, c'est le cœur de Dieu, la volonté de Dieu. Nous savons que nous vivons dans un monde déchu. Oui, il arrive toutes sortes de choses qui ne correspondent pas au désir de Dieu. Mais lorsque nous voulons prier, c'est important de savoir ce que Dieu lui veut. Est-ce qu'il s'accommode de notre existence ou est-ce qu'il est disposé à changer notre situation? Dieu est disposé à changer notre situation. Et quand il a sorti ce peuple d'Israël, d'Égypte, il n'y avait pas un seul infirme parmi eux. Et il leur a quand même donné, il a continué à leur donner la promesse qu'il est l'Éternel qui les guérissait. Ici dans Exode 25, quand il continue à leur donner ses lois 23, il dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux et j'éloignerai la maladie du milieu de nous. Le désir de Dieu, c'est d'éloigner la maladie du milieu de ses enfants. Est-ce qu'il y a un amen? Le désir de Dieu, c'est d'éloigner la maladie. C'est important que nous le saisissions. Trop de personnes pensent que je suis malade, c'est parce que Dieu m'a mis cette maladie pour m'apprendre quelque chose. Je crois que vous avez des oreilles, vous avez un cœur, vous êtes disposé à apprendre sans être malade. Amen. J'éloignerai la maladie du milieu de vous, de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Hier, nous étions en train de parler d'une personne que je connaissais il y a quelques années, une femme qui était pasteur et qui avait fait une fausse couche et après elle était retombée de nouveau enceinte et les médecins auraient souhaité qu'elle avorte parce qu'ils disaient que pour différentes raisons, des complications différentes, cet enfant n'allait pas arriver à terme et que c'était dangereux pour la mère. Et nous étions jeunes, intrépides, audacieux dans la foi. Ça veut dire, mais pas question! Nous allons prier. Dieu va intervenir. Et tu vas avoir cet enfant. Et nous avons prié. Et d'autres personnes aussi l'ont entouré pendant cette période. La grossesse n'était pas facile, mais elle a eu l'enfant. Aujourd'hui, c'est un grand gaillard. Vous voyez, il est grand. Mais quand il est né, il était tellement petit, j'avais peur de le prendre dans mes bras. Je dis, oui, amen, merci Seigneur, mais je pense que je ne vais pas le prendre pour l'instant. J'attendrai qu'il grandisse un peu. Mais Dieu a honoré sa foi. Et il a honoré la foi de tous les gens qui se sont tenus avec elle pour prier. On a dit quelque chose hier à la réunion de prière. C'est que lorsque les gens dans l'église ont un problème, lorsque vous voyez quelqu'un qui est opprimé par le diable, qui est démonisé, tout le monde est là, non, on va faire la délivrance, il va être libéré. Mais quand on voit des gens qui sont malades, on dit, oh ma chérie, pauvre de toi, t'as plus tes médicaments, allez, dors bien. Nous n'avons pas la même réaction de rejet pour dire, non, nous allons prier. Et c'est important que nous ayons cette même réaction pour dire que le désir de Dieu, c'est que ses enfants soient en bonne santé. Et témoignage après témoignage de la manière dont Dieu a intervenu activement dans la vie des gens. Vous savez, c'est Dieu qui nous a fait. Lorsque nous comprenons que c'est lui qui nous a fait, nous savons qu'il a de quoi remplacer les pièces. Il a des pièces détachées. Alléluia. Nous savons qu'il sait comment réparer ce qu'il a créé. Donc, le désir de Dieu, c'est « j'éloignerai la maladie du milieu de toi ». Et nous avons également regardé dans Ésaïe chapitre 53. Je veux que vous tourniez avec moi dans Ésaïe chapitre 53. Parce que c'est important que ces choses soient ancrées dans nos cœurs. Que ces choses deviennent une réalité pour nous. Notre foi est basée sur la révélation de la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas demander avec foi quelque chose à Dieu si nous ne sommes pas convaincus qu'il veut le faire. Nous allons regarder plusieurs versets. L'objectif, c'est d'établir dans nos cœurs l'assurance que le cœur de Dieu pour ses enfants, c'est qu'ils soient guéris et en bonne santé. Alléluia. Dans Ésaïe chapitre 53, et ceci est très, très pertinent. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui vont vous dire que oui, mais c'est sous l'Ancien Testament, c'est dans l'Ancienne Alliance. Dieu a promis à Israël, il n'a pas promis à Manuela. Si, Dieu a promis à Manuela ce qu'il a promis à Israël. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit dans Galates que nous sommes des enfants et Romains, que nous sommes des héritiers d'Abraham. Des enfants d'Abraham. Et les promesses d'Abraham sont les nôtres. Glory to God. Alléluia. Au verset 4, chapitre 53, il est dit ceci, et nous savons que c'est une prophétie messianique. Dites messianique. Donc, sur Jésus. Cependant, ce sont nos souffrances. Et nous avons vu que le mot souffrance, c'est le même mot traduit maladie. Et dans plusieurs de mes versions en anglais, il dit, ce sont nos maladies qu'il a portées. La maladie physique. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ici, c'est une description de l'œuvre de Jésus à la croix. La manière dont il a porté nos péchés. Une prophétie donnée par le prophète Ésaïe des centaines d'années avant la naissance de Jésus, qui parle de la manière dont Jésus a porté nos péchés sur la croix. Et c'est une prophétie qui est citée constamment lorsqu'on parle de l'œuvre de Jésus à la croix. Et au verset 11, il nous a dit ceci, il verra une postérité et prolongera ses jours et l'œuvre de l'Éternel prospérera, c'est le verset 10, au verset 11, à cause du travail de son âme, il rassasira ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs iniquités. Le même mot chargera de leurs iniquités, c'est le même mot qui est utilisé dans Ésaïe 53, 4 pour dire c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Au verset 12, il nous parle également du fait que Jésus a été, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup. Le même mot utilisé pour dire qu'il a porté les péchés, c'est le même utilisé pour dire au verset 4 que ce sont nos maladies qu'il a portées. Et pas uniquement en français, je vous parle du texte hébreu. En d'autres termes, la même manière dont il s'est chargé de nos iniquités, c'est la même manière dont il s'est chargé de nos douleurs, la même manière dont il a porté nos péchés, c'est la même manière dont il a porté nos maladies. C'est important de le saisir et de comprendre donc que pourquoi nous pouvons avoir l'assurance quand nous demandons au Seigneur la guérison, nous pouvons avoir l'assurance parce que la guérison fait partie de la nouvelle alliance. Parce que la guérison fait partie de l'œuvre de Jésus à la croix. Parce qu'il est allé à la croix pour nos péchés et aussi pour nos maladies. Et il les a portés sur lui. Nous avons vu le passage dans 1 Pierre, lorsqu'il a cité ce passage d'Ésaïe 53, l'apôtre Pierre parle du fait que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. C'est cité le verset 5, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et lorsque l'apôtre Pierre le cite après, dans le Nouveau Testament, après la crucifixion de Jésus, il le cite au passé. Il dit, c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Ce qui veut dire que Jésus a pourvu à la croix, à la fois pour le pardon des péchés et pour la guérison du corps. C'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Lorsque vous demandez votre guérison, que vous priez pour votre guérison, vous n'êtes pas en train de demander à Dieu de faire quelque chose qu'il n'a pas encore fait. C'est comme lorsque quelqu'un demande à Dieu de le recevoir et confesse ses péchés. Il veut recevoir Jésus dans son cœur. Est-ce que Jésus a besoin d'aller de nouveau à la croix pour lui? Est-ce que Dieu a besoin de faire quelque chose de nouveau pour que cette personne soit sauvée? Non, ce qui a été fait, le bénéfice de ce qui a été fait peut venir sur quiconque croit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en lui. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il suffit de le recevoir. Nous le recevons pour le pardon de nos péchés. C'est important aussi de le recevoir pour la guérison de notre corps. Lorsque nous comprenons que la guérison fait partie de la nouvelle alliance et fait partie de ce que Jésus a obtenu pour nous à la croix, nous savons que nous sommes en droit de demander la guérison de nos corps et de prendre autorité sur tout esprit qui amène l'oppression dans les corps. La parole de Dieu nous dit concernant Jésus dans Actes chapitre 10 verset 38, car comme Dieu a moins d'Esprit Saint, Jésus de Nazareth, qui allait partout faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable. Il guérissait ceux qui étaient opprimés. Rappelez-vous l'histoire de cette femme infirme qui était dans le temple et que Jésus a guéri. Et lorsque Jésus a guéri cette femme le jour du sabbat et que les pharisiens et les autres hypocrites n'étaient pas contents du fait qu'il ait guéri le jour du sabbat, Jésus a parlé d'elle, il a dit, mais cette femme que Satan a tenu liée pendant 18 ans. La maladie, c'est Satan qui lie les gens. Ce n'est pas le désir de Dieu que les gens soient guéris, que soient malades. Si le désir de Dieu, c'était que les gens soient malades, pourquoi Jésus a passé son temps sur la terre à guérir les malades? Il aurait passé son temps sur la terre à aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Nous savons que ce n'est pas vrai. Partout où il allait, il guérissait. La parole de Dieu nous dit qu'il allait partout, faisant du bien et guérissant, faisant du bien et guérissant. À chaque fois que Jésus était confronté à la maladie, il avait une réaction, c'était de guérir. À chaque fois qu'il voyait quelqu'un qui était malade, il avait une réaction, c'était de les délivrer. C'était de briser les liens et briser les chaînes. Et lorsqu'il parlait de cette femme infirme, lui-même disait que Satan l'avait tenue liée. Et il parlait d'elle, j'ai le verset ici, je vais vous le lire. Luc 13, verset 16. Et cette femme qui est une, c'est Jésus qui parle. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? La pensée de Dieu s'est délivrée de la chaîne. Jésus disait que Satan la tenait liée pendant 18 ans. Et lorsque lui est arrivé, qu'est-ce qui est arrivé? La guérison est arrivée. Lorsque Jésus arrive quelque part, la délivrance arrive. Lorsque Jésus arrive quelque part, la restauration arrive. Parce que le cœur de Dieu, c'est de restaurer, c'est de délivrer et c'est de guérir. Satan la tenait liée pendant 18 ans. Et pour ces gens-là, c'était pas grave. Elles pouvaient rester là tant qu'elles ne gênaient pas leurs coutumes et leurs traditions et leur système et leur manière de fonctionner. Et parfois, nous sommes un peu comme ça. Tant que quelque chose ne gêne pas notre habitude et notre manière de fonctionner, ça va. La personne peut souffrir autant qu'elle veut. Mais ça, ce n'est pas le cœur de Dieu. Et ce n'est pas le cœur que doit avoir son Église. Et si nous sommes en train de faire ces enseignements, c'est non seulement pour que nous puissions marcher dans la santé divine, mais aussi que nous puissions être des agents de Dieu pour prier pour les malades. Jésus a dit lorsqu'il quittait la terre, il a donné un mandat. Il a dit, voici les signes qui suivront ceux qui auront cru. Est-ce qu'il y a des gens qui ont cru ici?
Amen.
Eh bien, il s'agit de vous.
Amen.
Voici les signes qui suivront ceux qui auront cru. Et parmi ces signes, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le désir de Dieu, c'est de guérir. Si Dieu ne voulait pas guérir, pourquoi Jésus aurait passé son temps sur la terre à guérir? Et il s'est pas contenté de cela. En partant, il a donné mandat à son église de guérir les malades. Et il s'est pas contenté de cela. Il a dit à son église, les œuvres que je fais, vous en ferez de même et des plus grandes. Des plus grandes. Parce que je vais au Père. Et il allait au Père, il nous disait que quand je vais partir au Père, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Nous savons que Jésus a été loin d'Esprit Saint. Et c'est à part l'onction du Saint-Esprit qu'il guérissait les malades. Et le même Saint-Esprit qui était sur Jésus, Jésus nous l'a envoyé. Il est venu sur l'église. Et l'église est censée faire ce que Jésus faisait. Parce que ce n'est pas nous qui faisons, c'est Dieu qui fait à travers nous. Et la parole de Dieu est très claire. Lorsque Jésus est parti, il nous a dit que ses disciples ont commencé à prêcher l'évangile. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Dans Marc chapitre 16, c'est le passage, il nous dit, ils imposeront les mains aux malades. Au verset 15, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Au verset 19, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Dieu est toujours disposé à agir lorsqu'il voit des gens qui sont disposés à le laisser agir à travers eux. Et à la clôture des livres de l'Ancien Testament, dans Malachie chapitre 4, il dit, « Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Se lèvera le soleil de la justice. » Le soleil de la justice, c'est Jésus. La guérison sera sous ses ailes. La guérison est partie intrinsèque de l'œuvre de Jésus sur la croix. Et parfois, parce que l'Église n'a pas fait le nécessaire creuser la parole de Dieu, pour recevoir la vérité de la parole de Dieu et pour être les agents de Dieu sur la terre, nous avons déterminé que la guérison s'est arrêtée avec le temps des apôtres, ce qui n'est pas vrai. Regardez avec moi dans Jacques. Nous savons que les apôtres, n'est-ce pas, guérissaient les malades. Rappelez-vous le boiteux qui était à côté de la porte qui s'appelle Belle. Mais d'abord, nous allons regarder dans Jacques. Nous allons revenir sur les apôtres dans quelques instants. Dans Jacques, chapitre 5, au verset 14, il dit ceci. « Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. » Est-ce que vous savez qu'ici, lorsqu'il parle des anciens de l'église, il ne parle pas des apôtres? En réponse à tous ceux qui disent que les miracles ont cessé avec les apôtres et que Dieu ne guérissait plus après la mort du dernier apôtre. Je ne sais pas d'ailleurs quelle date ils ont donné pour la mort du dernier apôtre. L'apôtre Jean, je suppose, il est mort et le lendemain, c'était fini les miracles. Mais ce passage s'adresse aux églises. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Ce qu'il faut retenir dans ce passage, c'est qu'il y a une promesse de guérison suite à la prière de la foi. Il va vous le oindre d'huile. Qu'est-ce que l'huile symbolise? L'huile symbolise la présence du Saint-Esprit. Oindre d'huile, ce n'est pas pour préparer les gens pour la mort dans la parole de Dieu. Oindre d'huile, c'est préparer les gens pour la guérison. Alléluia. Préparer les gens pour la guérison. Et lorsque la personne est ointe d'huile et que la prière de la foi est libérée, la parole de Dieu nous dit que la prière de la foi sauvera le malade. Pas sauver son âme, mais son corps. Le mot qui est utilisé pour sauver dans la parole de Dieu, soteria, sozo, sont les mots utilisés pour le salut et pour sauver. C'est exactement le même mot qui englobe la guérison physique. Lorsque la femme qui souffrait d'une perte de sang s'était approchée de Jésus et a reçu sa guérison, la parole de Dieu nous parle du fait qu'elle a été sauvée. Donc, ça veut dire qu'elle a été guérie. Physiquement guérie. Et elle-même a reconnu, le Seigneur a dit, mais la puissance est sortie de moi, quelqu'un m'a touché. Et instantanément, sa maladie a disparu. Dans la manière dont Dieu conçoit les choses, tout est réuni. Corps, âme et esprit. Le salut que Dieu offre est total, intégral. Et le Seigneur le relèvera. Alléluia. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Donc, l'instruction est donnée à l'église. L'instruction est donnée aux églises de prier pour les malades, de les oindre d'huile pour la guérison et non pas pour l'enterrement. Pour qu'ils soient restaurés, pour que Dieu puisse les relever, qu'ils soient guéris. Et que si les gens ont commis des péchés, parce qu'il y a des fois où la maladie est suite à un péché. Ce n'est pas toujours le cas. Heureusement. Alléluia. Sinon, personne n'osera avouer qu'il est malade. Thank you, Jesus. On va dire, qu'est-ce que tu fais en cachette? Et si c'est Dieu a empêché la personne qui fait son péché et elle est guérie. Toute l'optique de la parole de Dieu, c'est la guérison, la restauration. Si nous continuons dans ce passage, il continue à nous parler de guérison. Et il y a un verset que nous citons beaucoup. Et nous ne nous rendons pas toujours compte qu'en fait, ce verset a été donné la première fois dans le contexte de la guérison. Suivez-moi. Au verset 16, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres. » Les uns aux autres. Je répète, les uns aux autres. Pas au pasteur, les uns aux autres. Alléluia. « Et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Encore le désir de Dieu de guérir. Et ensuite, la prière agissante du juste. Donc, certaines traductions, la prière fervente, la prière énergique, la prière intense. C'est pour cela que je vous encourage à prier de façon intense et fervente. La prière, ce n'est pas une prière indifférente. Oui, Dieu, amen, je te bénis, tu es là. Oui, alléluia. Oui, amen, gloire à Dieu. Le rôti, gloire à Dieu, alléluia. À quelle heure? Oui, amen, je te bénis. Non, la prière fervente, dites fervente, du juste a une grande efficacité. Toujours dans le contexte de la guérison. Que si vous priez pour quelqu'un et que vous êtes fervent dans la prière, cela va porter son effet. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Donc, ne méprisez pas vos prières. Parfois, lorsqu'on va prier pour quelqu'un, les gens ont la foi jusqu'à ce qu'ils entendent de quoi souffre la personne. Si la personne dit, ah, j'ai un petit mal de tête, ah oui, au nom de Jésus, on va prier pour ça. Quand la personne dit, oui, mais en fait, les médecins ont dit que j'ai un mois à vivre, ah, alléluia. Seigneur, ta grâce. Quand vous entendez les chrétiens commencer à faire, Seigneur, ta grâce. Vous savez qu'ils ne savent plus quoi dire. Ils ne savent plus quoi faire. Ah, du genre, ah ben là, franchement, Seigneur, la balle est dans ton camp, hein, parce que là, ça me dépasse. Non, la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Lorsque nous sommes confrontés à la maladie, nous devons réagir comme la parole de Dieu nous dit, prier avec ferveur. Et ferveur.
Ferveur.
Ferveur veut dire intense passion, être à fond dedans, laisser le Saint-Esprit nous inspirer. Et le Saint-Esprit sait inspirer la prière. Il sait nous, dans Romains, il nous, oui, tu nous parles du fait que nous ne savons pas comment prier, mais l'Esprit de Dieu, il nous saisit, il nous aide, je paraphrase, il nous aide, il nous fait prier par des soupirs inexprimables. Glory to God. Il y a des choses qui dépassent notre entendement. Et parfois, il y a des situations qui sont responsables d'une maladie. Parfois, il y a des liens dans des familles. Il y a des choses à casser, à briser. La parole de Dieu dit que Jésus guérissait ceux qui étaient opprimés par le diable. Et nous ne savons pas toujours comment prier. Mais lorsque nous nous mettons dans la main de Dieu, le Saint-Esprit inspire la prière. Et ça commence à sortir. Nous prions selon le cœur de Dieu. Nous sommes en mesure de discerner dans quel sens il faut aller. Toujours avec l'assurance que à chaque fois que je suis confrontée à la maladie, le désir de Dieu, c'est la guérison. Toujours la guérison. Toujours. Si je coopère avec lui, si j'accepte de faire ma part, le désir de Dieu, c'est toujours, toujours la guérison. 3 Jean 1, 2 dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en... » Il y a une personne qui connaît ce verset. « Et que tu sois en... » Que tu sois en
bonne santé.
C'est le désir de Dieu. Que tu sois en bonne santé. Qu'on prospère l'état de ton âme. Et donc, nous savons que la guérison est quelque chose qui a été demandé à l'Église. Jésus nous demande, non seulement, il nous dit qu'il veut que nous soyons en bonne santé, mais non seulement ça, il nous demande d'imposer les mains aux malades, nous demande de prier pour les malades, nous demande d'intercéder. Si quelqu'un est malade parmi vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Tous se mettre à prier. Je vous ai parlé de ce pasteur qui expliquait que dans son église, il était retraité et quand il prenait sa retraite, pendant de longues années, personne ne mourait d'une maladie quelconque. Pourquoi? Parce que dès qu'ils entendaient que quelqu'un était malade, toute l'église se levait, toute l'église commençait à prier. Les gens venaient dans les locaux de l'église pour se relayer, prier constamment, constamment, constamment pour la personne. Et chaque fois, la personne était guérie. Ça, c'est la bonté de Dieu. Alléluia! Ça, c'est le cœur de Dieu. C'est le désir de Dieu. Et c'est ce qu'il demande à l'église de faire. Et dans l'église primitive, nous avons vu que lorsque le Saint-Esprit est venu, Jésus leur avait dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et lorsque nous témoignons pour Jésus, nous témoignons avec démonstration d'esprit et de puissance. L'apôtre Paul lui-même a parlé du fait qu'il ne pouvait parler que des choses que Christ avait fait à travers lui. Et que Dieu, il avait agi avec des paroles et avec des actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Dieu n'a pas changé. C'est le même Saint-Esprit. Et lorsque les apôtres ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit, leur vie a été totalement révolutionnée. Les mêmes qui se cachaient, qui n'osaient pas, le même Pierre qui avait renié Jésus 3 fois. Une fois déjà, c'est bien, 2 fois quand même, 3 fois, ça fait beaucoup. Surtout qu'il a été prévenu. Pour vous dire à quel point ils avaient peur, à quel point ils n'avaient pas d'assurance. Lorsque Jésus était en train de subir son procès. Et le même Pierre, après avoir été rempli de Saint-Esprit, s'est levé avec audace et a annoncé l'évangile avec puissance et avec vigueur. Et lui et Jean allaient au temple. Et ils n'ont rien trouvé de mieux à faire que de s'arrêter devant un boiteux et lui dire, bon, on n'a pas d'argent à te donner, mais par contre, on a autre chose. Et nous allons lire ensemble, parce que je veux que vous sachiez ce qu'ils ont. Parce que ce qu'ils ont, vous avez. Nous avons bu du même esprit. Nous avons reçu le même Seigneur. Nous avons reçu le même esprit. Le Seigneur n'a pas mis une date butoir à la guérison dans l'église. Il n'a pas mis une date butoir à la manifestation du Saint-Esprit. Alléluia. Et au fur et à mesure que l'église commence à redécouvrir ce que Dieu a pourvu pour nous dans sa parole, nos vies changent, notre perspective change, notre vision de Dieu change, notre manière de fonctionner dans des circonstances change. Nous cessons de vivre sous la défaite et de penser que tout ce qui vient, il faut subir. Il y a des choses que Dieu a envie de changer sur la terre. Il les change à travers un peuple qui lui fait confiance. Alléluia. Et là où vous habitez, il y a quelqu'un qui a besoin que vous saisissiez que Dieu guérit. Et que vous veniez prier pour lui. Nous avons vu l'histoire de Naaman, ce Syrien, ce général syrien, un peuple étranger à l'alliance de Dieu. Mais Dieu l'a guéri par l'intermédiaire du prophète. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsque Naaman a été guéri? Naaman a commencé à adorer Dieu. Naaman a commencé à reconnaître la grandeur de Dieu. Et à chaque fois, dans la parole de Dieu, nous voyons quand Dieu touche quelqu'un physiquement. Il prend conscience du fait que Dieu est une réalité. Et ça change sa manière de fonctionner. Lorsque les apôtres ont prêché l'évangile, c'est ce que l'apôtre Paul dit dans Romains, il dit, j'ai prêché en parole et en acte. Alléluia. Il ne suffit pas de dire Dieu est bon, montrer que Dieu est bon. Il a envie de manifester sa bonté. Il a envie des gens qui vont oser dire, ok, tu es malade, je vais prier pour toi. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes des agents de Dieu sur la terre. Donc dans Actes chapitre 3, c'est tout nouveau tout ça. Ils venaient d'être baptisés dans le Saint-Esprit. Ils avaient encore moins d'expérience que la majorité d'entre vous. Pensez-y. Mm-hmm. Alors, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. Ce pauvre homme, toute sa vie dans cet état. Et nous savons que souvent, Jésus rencontrait des gens et la parole nous dit qu'il était ému de compassion. Il voyait des gens et son cœur était rempli de compassion. Et Dieu veut que cette compassion revienne dans son église. Nous ne pouvons pas être indifférents, juste bénis-moi Seigneur, oh tu me bénis mon Dieu, je suis béni. Nous chantons notre bénédiction, ma bénédiction, moi encore, et moi, me, myself and I, bless, béni, et béni, et les autres autour de nous. Et même c'est, oh ma pauvre chérie, ça va aller. Mais Dieu veut faire plus que de dire que ça va aller. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Quand vous venez à Jésus pour la guérison, attendez-vous à recevoir. Attendez-vous à recevoir quelque chose. Ne dites pas, bon, on va voir. Hein. Ouais, de toute façon, ça ne peut pas faire de mal. Hein. Tant que tu ne me maudis pas, si c'est la prière, même si je ne suis pas guéri, c'est pas grave. Non, attendez-vous à recevoir. C'est la raison pour laquelle nous prêchons la parole de Dieu. Montrer quelle est la volonté de Dieu. Pour que lorsque nous recevons la prière, que ce soit nous qui recevons la prière, ou nous qui prions pour les gens, quelle que soit la situation, pour que nous ayons la foi. Nous nous attendons à recevoir. Parce que c'est le désir de Dieu. Voilà, Seigneur, tu veux le faire. Moi, je suis d'accord pour que tu le fasses. Et je reçois. Alors, Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Dans ce, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Qu'est-ce qui se passe lorsque les gens sont guéris? Pour la plupart, ils vont sauter et ils vont louer Dieu. Alléluia! Je dis pour la plupart parce qu'il y a qui ne le font pas. Mais je crois des choses meilleures vous concernant. Amen. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le monde était étonné, accouru vers eux au portique dit de Salomon. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça a donné l'occasion à Pierre de prêcher. Alléluia! À chaque fois que Dieu guérit quelqu'un, c'est une occasion pour prêcher. Et il leur a dit, non, ce n'est pas nous. Nous, on y est strictement pour rien. Mais c'est Jésus. Dites, c'est Jésus. C'est Jésus. La parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Le même. Le même qui guérissait quand il était physiquement sur terre. Est le même qui guérit encore aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit à travers son Église. J'ai dit à travers son église. Alléluia. Son église, c'est? Alléluia. À quelqu'un qui a compris, qui a dit son église, c'est moi. Son église, c'est moi. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Et pour bien appuyer le désir de Dieu de guérir. Est-ce que vous savez qu'il ne s'est pas arrêté au fait de dire à ses disciples, imposer les mains aux malades ou recevoir une puissance? Il est allé jusqu'à mettre des dons de guérison dans l'église. En Corinthiens chapitre 12, nous parle des différents dons spirituels et surnaturels, parce que Dieu est surnaturel. Et nous sommes des êtres surnaturels. Et nous sommes censés prendre des choses surnaturelles de Dieu et les amener à existence pour changer nos vies et la vie des gens qui nous entourent. Dieu a donné des dons surnaturels. Un de ces dons, c'est les dons de guérison. En pluriel, les dons de guérison. Les dons de guérison. C'est comme si Dieu faisait tout le nécessaire, mettait tout en place, tout ce dont on pourrait avoir besoin pour assurer que son peuple vive en bonne santé et amène son message de salut, corps, âme et esprit à leur génération. Et par les dons de guérison, nous pouvons être guéris, une manifestation souveraine du Saint-Esprit. Extraordinaire. Et nous allons regarder ça dans plus de détails, que nous allons commencer à parler des différentes manières comment recevoir la guérison. Il y a une femme qui a écrit un livre, enfin plusieurs livres sur la guérison. C'est une, je ne sais pas si elle est toujours en vie. Elle est médecin et elle avait donné sa vie au Seigneur, mais elle était tellement surmenée par le travail, elle était tout le temps dans le travail. Au bout d'un moment, elle commençait à prendre la je crois que c'est la morphine, pour l'aider à tenir. Et après un moment, elle est devenue accro, complètement, complètement accro. Ça a totalement bousillé sa vie. Elle est devenue squelettique, elle ne pouvait pas s'en passer. C'était terrible. Et ça avait même affecté son mental. Oui, exactement. Elle avait été internée dans un asile, après ils l'ont laissée partir, mais même les médecins insistaient qu'elle devait continuer à prendre sa drogue parce que sinon elle était comme un mort vivant. Jusqu'au point où ses amis priaient quasiment qu'elle meure parce que ce serait la fin de ses souffrances. Et elle-même, au bout d'un moment, elle a repris, en plus elle priait, pour vous dire. Elle priait, elle dit, oh Dieu, pourquoi tu me guéris pas, etc. Pour que vous compreniez l'importance de la parole de Dieu, de la révélation de la parole de Dieu. Et elle priait beaucoup. Au bout d'un moment, elle a repris sa Bible qu'elle avait délaissée depuis longtemps. Elle a commencé à lire. Au fur et à mesure qu'elle lisait la Bible, elle commençait à voir la promesse de Dieu pour la guérison. Et c'est tout ce qu'elle a fait. Elle lisait, elle méditait sur la parole de Dieu, sur la guérison. Elle méditait sur les promesses de Dieu concernant la guérison. Et elle a été complètement délivrée. Mais complètement guérie. Complètement, totalement guérie et restaurée. Auparavant, elle n'avait pas d'appétit. Après, quand elle a été totalement guérie, elle mangeait 7 fois par jour. Et ce qu'elle a fait par la suite, c'est qu'elle a consacré sa vie à la guérison divine. Elle était toujours médecin. Mais elle a consacré sa vie à prier pour les malades. Elle et sa sœur avaient une maison qu'elles avaient reçue de leur famille. Elles ont ouvert cette maison. Elles en ont fait une sorte de clinique de guérison divine. Et elles recevaient les gens qui vivaient, en général, des gens pour qui il n'y avait plus d'espoir. Et les accueillaient chez eux. Et elles disaient qu'il était rare que quelqu'un sorte de là sans être guéri. Uniquement avec la parole de Dieu. En montrant aux gens la révélation du cœur de Dieu concernant la guérison. Le cœur de Dieu concernant la guérison. Le fait que selon Galates chapitre 3, nous avons été délivrés de la malédiction de la loi. Lorsque vous regardez la malédiction de la loi dans Deutéronome 28. Deutéronome 28 commence en parlant des bénédictions qui viennent sur le peuple de Dieu suite à son obéissance. Et à partir de verset 15, commence à parler de la malédiction qui vient suite à la désobéissance et différentes maladies. À la fin, il dit toutes les maladies qui ne sont pas notées. C'est une liste assez effrayante. Font partie des choses qui viennent sur la vie des gens. Mais quand on est enfant de Dieu, la Bible nous dit que nous avons été rachetés. nous avons été libérés. Nous n'avons pas à subir ces choses. Et elle enseignait ça aux gens et les gens recevaient la parole de Dieu et ils étaient guéris. Et elle, un jour, après sa guérison, elle était allée quelque part, elle est allée dans une église. Et dans cette église, le prédicateur était en train d'enseigner, d'encourager les gens à faire confiance à la parole de Dieu sur tout un autre sujet. Elle a demandé si elle pouvait prendre la parole, ce qui était peu orthodoxe. Mais elle a demandé si elle pouvait prendre la parole, ils lui ont accordé la parole et quand elle s'est levée, elle a donné son témoignage. Elle a parlé de la manière dont elle a été littéralement enchaînée et tout ce qu'elle avait subi et comment, en méditant la parole de Dieu, elle a été totalement guérie. Et elle a dit qu'elle était certaine qu'il y avait des gens dans cette église, avant d'entendre son témoignage, qui ne croyaient pas à la guérison divine. Mais quand elle a fini son témoignage, toute l'église s'est levée d'un bond et a commencé à chanter la gloire de Jésus. Et ils chantaient ce chant, je crois qu'il n'existe pas en anglais, All hail the power of Jesus' name, all angels prostrate bow, lift up the royal diadem and crown him, Lord of Lords. C'est tous à déclarer la puissance du nom de Jésus. Que les anges se prosternent, à élever la couronne royale et couronnez-le roi des rois, couronnez-le seigneur des seigneurs. Ils étaient tellement bouleversés par la puissance du nom de Jésus, la puissance de la parole de Dieu. Il y a des trésors dans la parole de Dieu, il y a des trésors dans le cœur de Dieu que nous pouvons choisir de découvrir ou que nous pouvons choisir de négliger. Mais la qualité et la valeur de nos vies en tant que chrétiens dépend et est étroitement liée à la mesure de la révélation de la parole de Dieu que nous recevons dans nos cœurs. Nous avons tous le choix. Nous pouvons décider de vivre comme nous avons toujours vécu, nous changeant des petites habitudes comme nous venons à l'église alors que nous ne venions pas avant, changer des petites choses. Ou nous pouvons décider que nous voulons être comme des gens qui creusent en profondeur et comme des gens qui sont en train de chercher du trésor. J'ai vu une image de femmes en Afrique qui cherchaient dans des villages pauvres qui cherchaient des bijoux, qui cherchaient des gemstones, qui cherchaient des pierres précieuses. Et ces femmes travaillaient du matin jusqu'au soir. Du matin, pas du tout le même système que par exemple l'Afrique du Sud où vous avez des mines de diamants qui sont hyper sophistiquées. Là, c'était des femmes pauvres qui cherchaient et elles s'asseyaient et elles nourrissaient leur famille. Elles se mettaient là et elles cherchaient, creusaient à la pelle, à la main en cherchant des pierres. Et elles s'appliquaient à faire cela. Pourquoi? Parce qu'elles connaissaient la valeur de ce qu'elles allaient en sortir. C'est important pour nous de connaître la valeur de la révélation de ce qui est sur le cœur de Dieu, qui va changer nos vies, notre existence, notre manière de fonctionner. Et la guérison divine fait partie de ces choses que nous pouvons négliger ou nous pouvons décider de creuser. Est-ce que vous comprenez? Et cette femme, parce qu'elle était désespérée, elle avait tout essayé. Elle avait tout essayé. Elle était médecin, donc ses amis médecins l'ont essayé. Elle avait tout essayé. Le seul espoir qu'ils avaient, c'était qu'elle meure tôt, qu'elle cesse de souffrir. Et elle a décidé d'aller miner, d'aller chercher dans la parole de Dieu et elle a trouvé sa guérison. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Nous avons le choix de prendre les choses de Dieu au sérieux ou simplement de venir danser à l'église. Nous avons le choix. Et cela change radicalement notre manière de fonctionner et change la qualité de nos vies et ce que nous pouvons apporter à d'autres personnes. Regardez autour de vous, le monde est rempli de souffrances et ce n'est pas le désir de Dieu. Là où vous habitez, vous pouvez compter le nombre de personnes que vous rencontrez chaque jour malades de quelque chose. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas le désir de Dieu. Mais Dieu agit sur la terre à travers des hommes et des femmes comme vous et moi, qui décident, qui vont cesser de vivre une vie superficielle et qui décident, qui vont creuser dans la parole de Dieu et recevoir la révélation de ce qui est sur le cœur de Dieu et apporter la délivrance à notre génération. Cette femme qui a été guérie lorsque Béa a prié pour elle, ça faisait 28 ans. 28 ans et en quelques jours changé. Parce que quelqu'un a décidé, je vais obéir à la parole de Dieu, je vais imposer les mains aux malades. Nous n'avons rien à perdre. Vous n'êtes pas le guérisseur, entre guillemets. Dieu dit, je suis Jéhovah Rophé, pas vous. Je suis l'Éternel qui guérit, pas vous. Mais si nous ne faisons pas le pas, personne ne sera guéri simplement parce que vous leur dites, ah, oh, repose-toi bien. Mais il y en aura qui seront guéris lorsque vous allez dire, je vais prier pour toi. Il y a un moyen qui va donner des résultats et un moyen qui n'en donnera pas. Et la compassion, c'est faire ce qui est en notre pouvoir pour changer la vie et l'histoire de quelqu'un. La compassion, ce n'est pas, oh ma pauvre. Si c'est en votre pouvoir de faire quelque chose et que vous ne le faites pas, ce n'est pas la compassion. Et Jésus était ému de compassion et parce qu'il était ému de compassion, il a changé la situation des gens auxquels il était confronté. Et si vous êtes malade aujourd'hui, sachez que Jésus est toujours ému de compassion. Il n'a pas changé. Il est toujours ému de compassion. Vous savez, ils ont dit concernant Jésus dans Matthieu. C'est important pour nous d'avoir une bonne image de Dieu. Jésus parcourt, Matthieu 4, 23, 24, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie. Et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques et il les guérissait. Vous allez me dire, c'est Jésus, mais Jésus a dit, allez et faites de même. Les œuvres que j'ai faites, vous ferez et des plus grandes. Il nous donne le mandat de faire. Nous avons le droit. Non seulement nous avons le droit, nous en avons le devoir. Je suis la main de Dieu qui va toucher quelqu'un, la voix de Dieu que quelqu'un va entendre. Et vous me dites, si je prie pour quelqu'un et que la personne n'est pas guérie, ce n'est pas grave, vous continuez à prier pour la personne. Lorsque nous savons que nous n'avons pas de réputation à sauvegarder, la seule chose qui compte, c'est que Jésus soit célèbre, amen. Que Jésus soit reconnu, que Jésus soit honoré. Cet homme, quand il a été guéri, il sautait et il louait Dieu. Alléluia. Hallelujah.